C'est un grand honneur pour moi d'introduire Roland Benabou, qui est professeur d'économie à l'université Princeton et qui nous fait l'honneur de visiter le Collège de France cette année, en fait. Donc si vous venez 3 rue d'Ulm au 5e étage, Roland, voilà, et nous sommes ensemble cette année, voilà. Encore des personnes. Nous nous sommes connus avec Roland il y a 33 ans, en 84, à Cambridge, Massachusetts. Roland était étudiant au MIT, il terminait un PhD, et moi j'étais étudiant à Harvard, mais en fait Roland était en avance sur moi. Quand j'ai connu Roland, il s'intéressait à la macroéconomie et aux fondements microéconomiques de la macroéconomie, et plus particulièrement, il travaillait sur les coûts de l'inflation dans une économie frictionnelle avec agents hétérogènes et coûts de réallocation. Donc des économies où on essaie, c'est un gros problème, vous savez, en macro, c'est de savoir quel est le bon niveau d'inflation. Voilà, on dit 2%, on dit voilà, mais il n'y a pas vraiment une théorie derrière. Et le peu de théorie qu'il y a derrière, et en fait, vraiment, les contributions vraiment importantes, ça a été les travaux de Roland de ces années-là qui ont donné un bon cadre en disant un peu d'inflation, ça permet une certaine réallocation, trop d'inflation, c'est pas bon. Et donc, il a donné les fondements microéconomiques d'un modèle où on peut vraiment parler des coûts et des bénéfices de l'inflation et quel serait le niveau optimal d'inflation. Voilà, donc ça, c'était les travaux, enfin, quand j'ai connu, tu travaillais sur ce sujet-là. Et dans des modèles avec concurrence imparfaite, on ne va pas rentrer dans le détail. Et puis Roland s'est intéressé à la relation entre inégalité et croissance, avant tout le monde, quand personne n'en parlait à l'époque. Il a produit un survey qui a fait date en 1996, que j'ai beaucoup utilisé. Et il s'est intéressé à la relation entre inégalité, géographie urbaine et éducation, également, toujours en faisant des contributions qui restent, et qui sont toujours des contributions de référence. Et ensuite, Roland s'est tourné vers la psychologie et la sociologie pour y importer des raisonnements et des analyses provenant de la microéconomie, en particulier de l'utilisation de la théorie des jeux en économie. Avec Jean Tirole et d'autres co-auteurs, parce que c'est vraiment Roland qui a poussé cet agenda et qui continue de le pousser, il a utilisé les outils de la théorie des jeux et des incitations pour rationaliser un certain nombre de phénomènes psychologiques et sociaux. En particulier la formation et la manipulation des croyances individuelles et collectives, la motivation intrinsèque, la notion de self-confidence, la relation entre législation et normes sociales. Et si vous voulez regarder par exemple le livre de Tirole sur l'économie du bien commun, pour l'essentiel, enfin, le gros du livre, beaucoup de ce livre, est en fait un éloge à sa collaboration avec Roland. Voilà, je ne vais pas dire ça, mais c'est vrai. Un papier qui voit beaucoup de jaloux, y compris moi-même, qui est collé, bon, oui, également. Un papier, une présentation de Roland se caractérise par. On reconnaît tout de suite un article de Roland Benabou, et c'est la chose suivante. D'abord, c'est une idée au départ, qui est une idée, ce qu'on appelle en anglais pathbreaking, c'est-à-dire une idée nouvelle, quoi, une idée vraiment novatrice et séminale, qui va générer beaucoup d'autres idées. Donc, à la base, il y a toujours une idée très importante. Ensuite, il y a un modèle très léché, c'est pas facile de modéliser en économie. Et on ne peut pas faire mieux en modélisation que ce que fait Roland. On appelle ça des modèles très léchés, très élégants, très parcimonieux, où on peut dire beaucoup de choses avec peu d'ingrédients. On ne fait pas mieux que les modèles qu'il y a dans les articles de Roland. Et une clarté et une rigueur absolue dans l'exposition. Un petit peu, mon sentiment, moi, c'est toujours été un peu. Toujours le sentiment que j'ai été très imparfait par rapport à ce que faisait Roland. Moi, je suis tendance à saloper mes articles, à tout le manque de rigueur, c'est mal écrit, et j'ai toujours Roland qui est un peu ma statue du commandeur, parce que Roland est parfait là où je suis extrêmement imparfait. Voilà, donc ça a toujours été mon. Roland, c'est plus de 50 publications dans les meilleures revues internationales, ce qu'on appelle les top 5. Vous savez, il y a 5 revues qui sont les top 5. Bon, et Roland a beaucoup, beaucoup d'articles et un flux continu de publications dans ses articles. Et ce n'est pas juste qu'il publie dans ses articles, c'est souvent des lead articles, c'est-à-dire le premier de la revue. C'est en général, on met toujours en premier le plus important. Et c'est des articles qui sont repris dans des volumes. En économie, c'est important aussi de savoir est-ce que vous êtes repris. Et les articles de Roland sont repris pas une fois, ils sont repris plusieurs fois. Et il y a beaucoup d'articles de Roland repris et repris et repris, parce qu'en fait, c'est des articles de référence. Voilà. C'est plus de 30 invited lectures. Roland est fellow de la Société d'économétrie. Il est membre de l'American Academy of Art and Science. Il est éditeur de l'American Economic Review, qui est la revue la plus prestigieuse en économie. Il a été associé d'éditeur de plus de top des 10 meilleurs journaux en économie. Et voilà, donc je peux continuer. Juste dire un mot, parce que je ne veux pas trop prendre l'ordre sur la leçon de Roland. Il va présenter quatre conférences. Donc le titre général, c'est l'économie des croyances et des normes sociales. Aujourd'hui, Roland va nous parler de croyances individuelles, rationalité, subjectivité, motivation psychologique. La prochaine fois, mercredi prochain, il va parler de croyances collectives, organisation, marché financier, idéologie politique. Ensuite, il va parler de lois, de législation et de normes, de lois et normes, incitation, moralité, sanctions sociales. Et enfin, il va parler d'économie politique, science, religion, innovation. Voilà, je vous encourage à... Voilà, il faut vraiment... Voilà, donc je ne sens plus tarder, je m'efface et je laisse la parole à Roland Benabou. C'est un grand honneur, je pense qu'on l'applaudisse déjà avant qu'il commence sa leçon. Merci. Alors, je devais remettre à Roland, mais je ne fais maintenant la médaille du Collège de France. Voilà. Donc Roland accepte cette distinction. C'est un grand plaisir de t'avoir parmi nous, et j'espère qu'on fera plus durablement parmi nous. Voilà.
Merci beaucoup. Merci beaucoup Philippe pour cette introduction excessivement gentille. Après ça, l'audience ne pourrait être que déçue par la présentation. Et merci à toutes et à tous d'être venus ici ce soir pour m'écouter. Alors, si ça veut bien démarrer, voilà. Je veux d'abord reconnaître une dette importante à Jean Tirole, avec lequel j'ai fait une grande partie des travaux théoriques dont je vais parler aujourd'hui. Mais je ne parlerai pas que de travaux théoriques ni que de nos travaux, je parlerai aussi de travaux empiriques et expérimentaux. Donc, ce que je vais faire, c'est commencer par une introduction générale que j'ai écrite expressément, où les transparents sont en français. Après, j'enchaînerai sur des papiers spécifiques, etc., ou des sujets spécifiques. Là, ça sera en anglais, mais je continuerai, bien sûr, à m'exprimer en français. Attendez. C'est pas le bon... Voilà. Voilà, c'est bon. Alors, donc l'objectif de ce cours, ou les objectifs de ce cours, il y en a trois essentiellement, c'est présenter une espèce d'aperçu ou de survol rapide de travaux, donc, comme j'ai dit, théoriques et empiriques, qui donnent une idée de comment l'économie aujourd'hui envisage la formation des croyances individuelles et collectives, et puis en rapport avec les croyances collectives, les normes sociales. Et ceci en commençant au niveau le plus micro, c'est-à-dire comment les individus traitent l'information et arrivent à avoir certaines croyances, en particulier des croyances qui peuvent être fausses, et ensuite en agrégeant jusqu'au niveau le plus macro, organisation, entreprise, marché, etc. Donc ça sera nécessairement partiel et non technique. Donc il y aura, comme Philippe l'a dit, il y aura quatre conférences d'une heure et demie chacune, et j'essaierai de laisser à la fin de chacune un peu de temps pour des questions. Une question fréquente que je rencontre quand j'explique à des connaissances ou de la famille que je travaille sur des choses comme les normes sociales ou la motivation intrinsèque, c'est « mais est-ce que c'est de l'économie, ça ?» Et la réponse est effectivement, c'est de l'économie à plusieurs titres. Premièrement, au titre de l'économie comportementale, dont je pense que la plupart d'entre vous ont entendu parler. C'est un domaine qui a à peu près 30-40 ans, qui est aujourd'hui majeur. Il suffit de prendre n'importe laquelle des revues pour s'en assurer, et qui a importé, si l'on peut dire, ou utilisé en économie, des apports et des idées de la psychologie, psychologie cognitive, mais aussi sociale et organisationnelle, et aussi, peut-être dans un peu une moindre mesure, de la sociologie ou des idées qu'on trouve en sciences politiques. Et en parallèle avec ce développement de l'économie comportementale, il y a eu un essor de l'économie expérimentale, c'est-à-dire qu'on fait maintenant des expériences en économie, ce qui normalement est très difficile. Donc, un autre indicateur de l'importance de ce domaine, beaucoup plus vaste que ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est par exemple le nombre de prix Nobel qui ont été attribués. Le dernier, c'était justement cette année, avec Richard Taylor, qui a fait des contributions sur la rationalité limitée, sur le fait que les gens ont une volonté imparfaite, sur le fait qu'ils ont des préoccupations de justice et d'équité. Bob Shiller a eu il y a quelques années le prix pour ses travaux en finance comportementale, le fait que dans les marchés financiers, les gens ne sont pas toujours rationnels ou ne semblent pas toujours rationnels. Danny Kahneman, qui est un psychologue, l'a eu pour justement l'apport de la psychologie, en particulier la reconnaissance du fait que nous sommes tous sujets à différents biais cognitifs, que nos décisions sont imparfaites. Et en même temps, Vernon Smith, pour avoir été un des pionniers de l'économie expérimentale. Et en remontant plus tôt, il y avait Simon qui était le premier à parler de rationalité limitée. Donc ça, ce sont ceux qui ont eu le prix pour spécifiquement ce domaine-là. Mais il y en a beaucoup d'autres qui s'y sont intéressés à un moment ou à un autre. Par exemple, Thomas Schelling, plutôt les phénomènes sociaux de ségrégation. George Akerlof a été le premier à modéliser la dissonance cognitive, s'intéresse maintenant aux normes sociales et à l'identité. Gary Becker, un autre pionnier sur la discrimination, l'altruisme, l'habitude et l'addiction. Maurice Allais, plus près de chez nous, sur des attitudes paradoxales vis-à-vis de l'information. Ken Arrow, aussi sur la discrimination et le choix social. Et si on remonte encore plus loin, en économie, mais là, ce n'est plus les prix Nobel, on a des géants tels que Pareto et en particulier Adam Smith, très connu pour la richesse des nations, la main invisible, etc. Moins connu, mais il mérite de l'être tout autant, pour sa théorie des sentiments moraux, qui est vraiment un livre extraordinaire sur, on va dire, les liens entre psychologie, économie et comportements sociaux. Plus généralement, donc, l'économie s'intéresse à tous les comportements humains et sociaux, au sens large. Donc, le deuxième objectif de cette série de cours, ça sera de corriger deux visions qui sont périmées ou erronées. La première, c'est que l'économie, ça se restreint à l'étude des entreprises, du marché du travail, du chômage, concurrence, politique monétaire, politique fiscale, etc. Bien sûr, c'est très important, ça reste peut-être numériquement une des activités ou un des sujets, une liste de sujets les plus importants, mais l'économie, c'est plus que ça, comme je viens de le montrer. Deuxièmement, ce qu'on entend très souvent aussi, c'est que l'économie n'envisage l'être humain que sous le prisme étroit de l'hyper-rationalité instrumentale et la poursuite d'intérêts égoïstes et matériels, la caricature de l'homo economicus, et allant avec ça, l'idée que l'économie est ignorante des autres sciences humaines, des questions d'égalité, d'éthique, etc. Pour ce qui est des questions d'inégalité, je pense qu'on sait maintenant que les économistes s'y intéressent, mais ils s'intéressent aussi à ces autres questions, et ils s'intéressent aussi à ce que font les gens dans les autres domaines. Donc c'est peut-être là aussi un cas intéressant de persistance d'idées erronées qui sera un des thèmes de ces conférences. Troisième objectif, c'est d'illustrer justement certaines de ces passerelles entre économie et autres disciplines ou à l'intérieur de l'économie, et en particulier et aussi les allers-retours perpétuels par lesquels on progresse entre travaux empiriques et travaux théoriques. Donc typiquement, on part d'observations empiriques expérimentales qui viennent souvent d'autres disciplines, ce sont des puzzles souvent, Kahneman a été justement un des pionniers là-dedans, Taylor aussi, des choses qui ne semblent pas explicables par l'économie habituelle. Parfois, elles le sont en y réfléchissant mieux. Souvent, elles ne le sont pas. Dans ce cas-là, on réfléchit à comment il faut les incorporer de nouveaux concepts, tels que, par exemple, manque de volonté dans un modèle formel d'économie. Le but, c'est de trouver, aussi bien d'expliquer ces puzzles et aussi de trouver des prédictions nouvelles ou plus spécifiques ou de nouvelles variables qu'il faudrait regarder. Et en retour, ça amène à la collecte de nouvelles données, de nouvelles expériences, de nouveaux tests, etc. Et on recommence la boucle. Quelques messages idéaux récurrents qui vont se dégager au fur et à mesure des conférences, en simplifiant un petit peu. Le premier, c'est que tout est modélisable. n'y a aucune incompatibilité, contrairement à ce qu'on le croit ou on l'entend souvent, entre formalisation mathématique et notions psychologiques ou sociologiques telles que dissonance cognitive, déni de réalité, anxiété, tentation, normes, honneur, opprobre, etc., idéologie. Tout ça peut se modéliser. La question, c'est est-ce que les modèles sont bons et rendent compte de la réalité ou pas. Un deuxième message, c'est que, bien entendu, des modèles, chaque discipline en a, et qu'en économie, nous avons une espèce de boîte à outils, en particulier la théorie des jeux, mais aussi des notions plus de base, coûts, bénéfices, demandes, offres, équilibre entre ce que font les différents agents en particulier, et que ces choses-là sont très utiles également pour rendre compte de ces phénomènes psychologiques, sociologiques et idéologiques. Troisième chose, c'est qu'on évite, dans la mesure du possible, ce qu'on appelle les boîtes noires, c'est-à-dire des explications qui s'arrêtent sans être vraiment complètes. La formalisation oblige à expliquer toutes les variables et toutes les hypothèses, et après on peut les juger ou les tester. Moins il y en a pour expliquer plus de faits, mieux c'est. Les théories doivent à terme être testables sur de vraies données. Alors à terme, ça peut mettre longtemps, par exemple, entre certaines de ces idées sur les croyances fausses, etc., sur lesquelles Jean Tirole et moi, nous avons commencé à travailler dans les années 1999-2000. Les papiers qui les testent sont maintenant, sortent peut-être 10, 15, 20 ans après. Et puis, l'accent, ça c'est plus général pour l'économie, sur l'identification des liens de causalité, qui est particulièrement difficile en sciences sociales, parce que ce que fait chacun interagit sur ce que font les autres, ce que pourrait éventuellement faire chacun demain interagit sur ce que font les autres aujourd'hui. Et c'est là que les gens qui font des expériences ou des travaux expérimentaux sont particulièrement créatifs, le fait que ça soit difficile ne veut pas dire que c'est impossible. Alors, bien sûr, il y a toujours des coûts et des bénéfices. Les coûts de cette approche, c'est qu'on fait des simplifications inévitables, voire extrêmes. On met la loupe sur certaines choses et on oublie d'autres. Mais on se souvient, ou on a en tête, que tout modèle est destiné à un jour être falsifié. Et on progresse comme ça par petites approximations successives. Voilà, donc ça, c'était un peu une introduction méthodologique sur l'ensemble du cours. Maintenant, je vais passer au premier, au premier sujet, donc les croyances individuelles, et donc les croyances individuelles qui serviront après de base ou de briques pour étudier les croyances collectives. Donc, encore une fois, ça c'est largement basé sur des travaux joints avec Jean. Donc, la question, c'est comment les gens forment-ils leurs croyances ? Question évidemment vaste et ancienne, tous les philosophes s'y sont intéressés. Moi, je vais l'aborder d'un point de vue plus étroit, qui est celui de comment les économistes envisagent la façon, ou ont envisagé au cours de l'histoire, la façon dont les gens forment leurs croyances, leurs anticipations, leurs prévisions. Jusque dans les années 70, on ne s'en préoccupait pas beaucoup. Quand elles entraient en jeu, on supposait que les gens avaient des anticipations relativement naïves. Ce qui s'est passé l'an dernier va plus ou moins se reproduire l'an prochain, ou on extrapole un trend, etc. Ce n'était pas très sophistiqué, c'était excessivement simpliste. Dans les années 80, le balancier a basculé complètement de l'autre côté. Il y a eu en macroéconomie ce qu'on a appelé la révolution des anticipations rationnelles. En microéconomie, des développements dans la théorie des jeux à information imparfaite en particulier, où là, on a envisagé les gens, les acteurs, les investisseurs, les consommateurs, comme étant rationnels, c'est-à-dire qu'ils traitent l'information qu'ils ont, dans la mesure où ils en ont, de façon du mieux possible. Alors, on n'a pas toujours toute l'information, parce que ça peut être coûteux, parce qu'il peut y avoir des gens qui cherchent à vous cacher des choses, mais dans la mesure où on a l'information, on ne fait pas d'erreurs systématiques ou d'erreurs répétées dans la façon dont on s'en sert. D'accord ? Donc ça correspond peut-être un petit peu à la caricature de l'homme hyper rationnel, ce qui ne veut pas dire qu'il ne fait pas d'erreurs, mais s'il fait des erreurs, c'est qu'il n'a pas toute l'information. Le balancier, dans les années, mettons, depuis les années 90, comme toujours, est reparti de l'autre côté avec la révolution ou la vague de fond de l'économie comportementale, Kahneman, Tversky, etc., où maintenant, dans un tas d'études théoriques, empiriques, etc., on montre ou on prend comme donné le fait que la connaissance humaine ou la cognition humaine est sujette à tout un nombre de biais systématiques, biais de confirmation, biais de ce qui nous vient à l'esprit, de ce qui est mis en avant, salience, et tout un autre, toute une série, on va dire, d'erreurs systématiques que les gens ont tendance à faire, en particulier quand il y a de l'incertitude et qu'il s'agit de traiter les probabilités. Donc ça, c'est le côté, l'homme est peu rationnel parce que c'est la réalité compliquée et notre cerveau a du mal, par exemple, à appliquer la règle de Bayes dès que ça devient un peu complexe. Ce dont je vais parler pendant ce cours, c'est une espèce de retour un peu du balancier, encore une fois dans l'autre direction, pas forcément celle de la rationalité au sens classique, mais celle des raisons. C'est-à-dire que si les gens ont des croyances erronées, c'est souvent qu'il y a des raisons à cela. C'est d'ailleurs ce que disait aussi Boudon, ici. Mais les raisons ici que je vais mettre en avant sont des raisons psychologiques. C'est-à-dire que ça répond à certains besoins. Les croyances que les gens ont, peuvent avoir, peuvent répondre à des besoins affectifs, d'affect, émotionnels, ou au contraire des besoins fonctionnels, par exemple se motiver pour l'effort ou des choses comme ça. De ce fait, elles peuvent être très résistantes à l'évidence, résistantes aux faits, déni de réalité, et à l'inverse, elles répondent aux coûts et bénéfices par exemple, de la motivation ou des émotions qui sont en jeu, etc. Et ça, ça va permettre d'identifier ces facteurs qui rentrent en jeu. D'autres exemples de ces croyances qu'on appelle motivées ou peut-être croyances désirables, c'est que parfois les gens ne veulent pas savoir, ce qui est une attitude paradoxale en économie classique. Les gens s'énervent ou deviennent très émotionnels quand on leur présente une évidence contraire à leur croyance. Encore une fois, ça ne devrait pas arriver. Attention sélective, etc. Et éventuellement aussi des traces de tout ça dans le cerveau. On aura l'occasion de voir des exemples de toutes ces choses-là. Alors, de quelles croyances parlons-nous ? Eh bien, un petit peu de tout. Des croyances d'abord sur soi-même. Suis-je intelligent ? Suis-je honnête ? Suis-je talentueux, etc. Des croyances sur mon futur. Est-ce que je serai riche ou pauvre, heureux ou malheureux ? Ma carrière sera-t-elle bonne ou mauvaise, etc. Est-ce que j'aurai un cancer ou est-ce que je n'aurai pas un cancer ? L'identité, qui suis-je ? Quel est mon groupe, etc. Croyances là-dessus. Ce sont des croyances qui vont mettre en jeu justement des émotions ou des affects ou au contraire des buts que les gens vont chercher à atteindre à travers leurs croyances qui vont faire qu'elles vont parfois s'écarter de la réalité objective. Plus généralement, des croyances sur comment marche le monde ou comment fonctionne le monde. En particulier, pourquoi y a-t-il des riches et des pauvres ? Est-ce que les pauvres, ce sont des paresseux ou est-ce que ce sont des gens qui n'ont pas eu de chance ? Le monde est-il juste en ce sens ou n'est-il pas juste ? Donc, on passe rapidement à l'idéologie. Qu'est-ce qui est plus efficace, l'État ou le marché ? Qu'est-ce qui est moral ou immoral ? Qu'est-ce qui est tabou ? Peut-on faire confiance aux gens ? Peut-on faire confiance à ce groupe-là ou à tel autre groupe-là ? Donc là, on passe directement dans le domaine des croyances culturelles. Et pour toutes ces choses, il y a beaucoup d'évidence de différentes disciplines que les croyances ne sont pas formées ou révisées de façon objective, c'est-à-dire en utilisant au mieux l'information qu'on a, mais qu'elles répondent en partie à des besoins psychologiques, soit d'être des croyances plaisantes ou rassurantes, soit d'être des croyances motivantes ou qui nous aident à accomplir certains buts. Donc, dans un de nos articles, on a décrit les croyances comme des stocks de capitaux, comme des avoirs. Les gens investissent dans leurs croyances, attachent de la valeur à leurs croyances, consomment leurs croyances, défendent et réparent leurs croyances, comme ils feraient pour leur maison. Alors, quelques exemples. Le type d'exemple le plus courant, que souvent on donne dans la psychologie classique, c'est que la plupart des gens semblent avoir trop confiance en eux ou une opinion meilleure d'eux qu'ils ne devraient l'avoir. Par exemple, beaucoup de gens pensent ou disent qu'ils pensent être des meilleurs conducteurs que la moyenne, plus intelligents que la moyenne, avoir un sens de l'humour supérieur à la moyenne, etc. Avoir moins de chances d'avoir un cancer ou un divorce que la moyenne. Donc il y a des surveys qui sont faits et c'est ce que rapportent les gens. Alors ça, c'est déjà une première évidence, mais il faut faire attention, et en particulier c'est là où les économistes ont dit, c'est pas forcément irrationnel parce qu'on ne sait pas, ce qu'ils savent, on ne sait pas quels signaux ils ont reçus, et on peut facilement construire, c'est ce qu'ont fait ces auteurs-là par exemple, des cas où il est rationnel pour 2/3 des gens de penser qu'ils sont dans le tiers supérieur, pour 75% des gens de penser qu'ils sont supérieurs à la moyenne. Ce genre de test-là est un test très faible de rationalité. Si on veut vraiment voir si les gens sont bayésiens ou pas, il faut des tests beaucoup plus discriminants. Plus intéressant, c'est de regarder non pas ce que croient les gens à un moment donné, mais comment ils forment leurs croyances, processus dynamique, comment ils révisent leurs croyances quand on leur donne de l'information, encore une fois, sur eux-mêmes, sur le monde, sur l'inégalité, sur tel groupe ou tel autre groupe, etc. Et de regarder si c'est conforme à la rationalité classique ou conforme à des facteurs qui pourraient agir sur la demande de croyance dans un certain sens ou sur des choses reliées à l'offre qui font qu'il est plus difficile de croire ceci ou cela. Alors, donc, continuons avec ces exemples. Des exemples, encore une fois, non formels ou des exemples en quelque sorte du premier type. Je vais vous montrer une table tirée des travaux justement de Schiller sur les croyances que déclarent les gens par rapport à l'appréciation du prix de leur maison pendant des bulles financières. L'idéologie, il est clair que là on est dans le domaine des croyances motivées, qu'au sein d'un pays les gens ne sont pas d'accord du tout sur la même réalité qu'ils perçoivent. Entre pays très similaires d'eux-mêmes, on verra des données là-dessus. Et puis, il y a toutes les théories de la conspiration, le déni du changement climatique, etc. Voilà un tableau qui est tiré d'une étude de Case et Schiller sur des bulles immobilières qui se sont produites aux États-Unis dans différentes grandes villes. C'était avant la grande bulle de 2005, 2006, 2007, qui était une bulle nationale. Là, c'était des bulles locales. Mais on trouve à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'on demande aux gens, pensez-vous que les prix de vos maisons, des maisons vont augmenter ou diminuer dans votre ville? Je vais me focaliser là-dessus, par exemple. Ça, c'est pour les gens qui ont une maison. En moyenne, pendant les 10 prochaines années, de combien anticipez-vous que votre propriété, votre maison, va augmenter par année? D'accord? Et en moyenne, ils répondent qu'ils pensent que ça va augmenter de 14, 13, 15... 10%, ce qui sont des taux d'appréciation énormes qu'on n'a jamais vus, et en tout cas qu'on n'a jamais vus pendant plus que 1 ou 2 ans. D'accord ? Donc là, encore une fois, ce sont des croyances qui, a priori, sont implausibles, mais on ne sait pas vraiment. Est-ce qu'ils y croient vraiment ? Est-ce qu'ils disent juste ce qu'ils espèrent, ce qu'ils aimeraient, etc. Donc on a besoin de tests plus discriminants. Donc là, on va se tourner vers un autre domaine, qui est celui de la santé, et je vais parler d'une étude qui est une très belle étude, qui a été faite là-dessus. C'est une étude sur la maladie de Huntington. La maladie de Huntington est une maladie neurodégénérative très grave et mortelle à terme, quelque chose d'affreux, et qui est héritée. Et en particulier, si un parent a le gène ou la variation du gène, chaque enfant a 50% de chances d'avoir la maladie et de la développer au cours de la vie. Et comment est-ce qu'on sait s'il l'aura ou l'aura pas? Il y a deux façons. Soit on regarde l'évolution des symptômes, aussi bien cognitifs que physiques, soit il y a un test. Alors, regardons d'abord ce que croient les gens. Comme toujours, c'est la première approche. Donc là, vous avez ce qu'on appelle le score moteur. Plus il est élevé, plus c'est mauvais, plus les gens sont incapacités. Et on a différentes probabilités que la personne ait la maladie, évaluées par, tout d'abord, le médecin. Donc c'est ce qu'on appelle la probabilité actuelle, la véritable probabilité. Vous voyez que ça part de 50%, sans avoir regardé la personne. Si un parent a le gène, c'est 50%. Et au fur et à mesure de la détérioration du score moteur, ça arrive à 100%. Que croient maintenant les gens qui ont le gène qui n'ont pas pris le test, sur leur probabilité ou qu'est-ce qu'ils déclarent croire. Eh bien, on voit que ça reste toujours aux alentours de 40% et que c'est très résistant à l'évidence. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de la détérioration, eh bien, ça augmente à peine jusqu'à 50%. En plus, il y a une certaine fraction, je crois que c'est de l'ordre de 5 à 10% de gens qui pensent ou qui disent penser qu'ils ont 0% de chance d'avoir la maladie, même quand ils ont des symptômes assez graves, voire très graves. D'accord ? Comme je l'ai dit, il nous faut des tests plus discriminants. Donc, la façon de savoir, c'est de prendre un test qui est gratuit et qui est fiable à 100%. Vu les enjeux, on pourrait penser que les gens ont envie de passer le test. Et là, ce qu'on voit, en fait, c'est qu'il y a très peu de gens qui ont le gène, donc qui ont déjà, a priori, 50% d'avoir la maladie, moins de 4% qui passent le test. Et ça augmente un petit peu avec les symptômes, mais ça reste très faible. Donc là, c'est un cas clair de « je ne veux pas savoir, je pourrais savoir de façon très facile et gratuite, mais beaucoup de gens ne veulent pas savoir », ce qui est déjà une attitude paradoxale du point de vue du traitement classique de l'information. Je ne sais pas ce que ça fait là, ça. Okay. Alors, la question que pose toujours l'économie, c'est « bon, mais est-ce que tout ça, c'est dans leur tête ? Peut-être qu'ils le croient vraiment, mais qu'est-ce qu'ils en font ? Est-ce que ça a des conséquences réelles ?» Eh bien oui, ça a des conséquences réelles. Là, on compare différents comportements de vie importants. Est-ce que si c'est une femme, elle a un enfant ou en tout cas une grossesse? Est-ce qu'il y a un divorce? Est-ce que la personne prend la retraite? Est-ce qu'elle fait des changements financiers importants dans ses finances? Est-ce qu'elle fait des changements dans ses activités récréationnelles? On va comparer les gens qui ont zéro chance parce qu'aucun de leurs parents n'a le gène. Et les gens qui ont le gène, donc minimum 50% de chance, mais n'ont pas encore été testés. D'accord ? Et donc ce qu'on voit, c'est les gens qui ont été testés. Donc les gens qui sont certains qu'ils ont la maladie de Huntington, par exemple, ils ont pris le test, on voit qu'ils font des changements considérables. Donc il y a des décisions à prendre quand on sait qu'on a la maladie. En particulier pour les femmes, elles décident d'avoir un enfant avant que ce soit trop tard. Souvent des divorces, on part à la retraite, etc. On réarrange ses affaires financières. Tout ça a des conséquences réelles. Par contre, pour les gens qui ont 50% de chance et plus, en fonction de leur état, d'avoir la maladie, mais qui n'ont pas pris le test, donc ils pensent toujours ou disent toujours penser qu'ils ont une probabilité faible, on voit qu'ils changent à peine leur comportement. D'accord ? Donc cette ignorance voulue, maintenue, amène à des comportements très différents et a donc à des conséquences réelles majeures. Et autre exemple de maladie, c'est le syndrome le herpès simplex. Donc là, on fait venir des gens, on fait une prise de sang et on leur propose des tests pour les deux variantes de ce virus herpès, la variante 1 et la variante 2. La variante 2 étant beaucoup plus grave que la variante 1. Et qu'est-ce qu'on voit ? Alors, on regarde d'abord ceux qui veulent savoir, êtes-vous prêt à payer 10% pour savoir si vous avez le virus 1 ou le virus 2 ? Il y a à peu près 30% des gens qui veulent savoir s'ils ont l'un ou l'autre. Plus intéressant, on demande aux gens, est-ce que vous voulez payer pour ne pas savoir ? Donc, ça va vous coûter 10$ si vous ne voulez pas qu'on vous dise si vous avez la maladie. Et bien là, on voit que s'il s'agit du virus 1, ben les gens, il n'y a que 5% de gens qui sont prêts à payer. Par contre, s'il s'agit de ne pas savoir qu'on a cette maladie grave, il y a à peu près 16% de gens qui sont prêts à payer 10$ pour ne pas savoir le résultat du test, disant s'ils ont ce virus. De même, là, on peut regarder parmi les gens qui cherchent, c'est-à-dire les gens qui ont choisi d'avoir un test, quand on leur donne le test, vous voulez le 1, tester pour le 1, ou vous voulez les résultats du 1 ou les résultats du 2. Ceux qui veulent les résultats, ben, ils veulent savoir s'ils ont une maladie grave ou pas. Donc, il y en a à peu près 36% contre 6% qui choisissent d'être testés pour la variante 2 plutôt que la variante 1. Parmi les gens qui choisissent de ne pas savoir, c'est-à-dire ceux-là, ben au contraire, ils choisissent, quand on leur propose, vous allez devoir prendre un test. On va vous donner les résultats d'un test, vous voulez savoir le 1 ou le 2, mais ils veulent savoir le 1, ils ne veulent pas savoir le 2. D'accord ? Donc là, c'est vraiment de l'évidence forte que les gens ne veulent pas savoir et que quand ils ont l'information, par exemple, en fonction de leur état, ils n'actualisent pas leurs croyances comme ils devraient et que ça a des conséquences sur leur choix de vie. Donc, c'est ce qu'on appelle, ou c'est indicatif de ce qu'on appelle les croyances motivées ou les croyances désirées. Et la question, c'est pourquoi et comment ? Okay. Donc pourquoi, c'est un peu quelles sont les sources de demandes, de croyances qui ne seraient pas tout à fait exactes. Comme je l'ai dit, en théorie de la décision en économie classique, les gens veulent toujours de l'information. Si ça coûte trop cher, ils ne l'acquériront pas, mais ils sont toujours demandeurs d'informations. Et là, on a vu que ce n'est pas le cas. Mais on sait tous, chacun, que les croyances, ce ne sont pas simplement des signaux sur les états de la nature, ce sont aussi des choses qui affectent notre vie d'un point de vue affectif, d'un point de vue de bien-être, stress, etc. Schelling, dont j'ai parlé tout à l'heure, a décrit le cerveau ou l'esprit comme un organe qui consomme, de même façon que l'estomac. Mais on consomme des croyances. L'exemple le plus simple, c'est l'estime de soi, l'ego. On en a tous. Ce sont des croyances qu'on aimerait bien être élevées et qu'on n'aime pas quand elles sont mauvaises. Autre est très relié, c'est ce qu'on appelle les émotions anticipatoires ou l'utilité anticipatoire, c'est-à-dire quand on pense au futur, on se demande justement est-ce que je vais perdre mon emploi, est-ce que je vais garder mon emploi, est-ce que mon époux ou mon épouse va me quitter, etc. Est-ce que mes investissements vont payer ou est-ce que je vais être ruiné ? Tout ça, c'est source de stress quand on pense que ça va mal se passer et c'est source de bien-être quand on pense que ça va bien se passer. Donc, c'est de la consommation des croyances. Autre source de demande, de raison pour laquelle les gens pourraient consciemment ou inconsciemment vouloir avoir des croyances un peu trop optimistes, c'est que ça les aide à accomplir certains buts. En particulier, si je suis relativement optimiste sur mon entreprise, sur mon éducation, etc., sur le prochain papier, je vais persévérer dans l'effort, je ne vais pas abandonner et j'ai un peu peur de trop abandonner, donc ça peut être utile d'être optimiste. Autre fonction instrumentale, j'ai intérêt à convaincre les autres de ce que je suis intelligent et honnête, ben, ça marchera mieux si je suis moi-même convaincu que je suis intelligent et honnête. Bien, donc ça, ce sont les raisons pourquoi. Comment ? Alors, le comment, on a déjà vu, en quelque sorte. Premièrement, si je pars avec une croyance relativement confortable, ben, je ne veux pas les mettre en danger, donc je ne vais pas prendre le test, je vais refuser l'information, je vais même payer pour refuser l'information ou commettre des erreurs pour ne pas avoir l'information. Ou bien, si on me force à avoir l'information, par exemple, si mon état se dégrade, etc., eh bien, je ne vais pas y faire attention, je vais trouver des excuses, je vais l'oublier, je vais rationaliser, et donc, je ne vais pas actualiser mes croyances, bien que j'ai eu l'information. Tout ça est-il bon ou mauvais pour l'individu ? Ça dépend, je ne vais pas entrer tellement dans les détails, ça dépend un peu du degré de distorsion des croyances. Il y a des cas où on voit que ça peut être très mauvais pour les individus, mais il y a aussi des cas où ça peut être bon. Par exemple, les optimistes travaillent plus, épargnent plus, travaillent plus longtemps et sont plus aptes à se remarier après un divorce que les pessimistes. Ce qui suggère effectivement certains bénéfices fonctionnels. D'accord ? Donc, on va s'intéresser à ces croyances motivées. Et ce que je veux dire, insister, c'est que ce sont des sources d'erreurs, en quelque sorte, dans les croyances par rapport à quelque chose d'objectif. Mais ce sont des sources d'erreurs très différentes, des erreurs qui sont simplement dues au fait que notre cerveau n'est pas un ordinateur parfait, qu'on pense de façon imparfaite, mise en avance par Kahneman dans son livre récemment, par exemple. Tout ça, c'est très important, mais ce n'est pas ce sur quoi je veux me focaliser. D'accord ? En particulier, le rôle des émotions, des désirs et de leur interaction avec la cognition, c'est ça. Donc, en quelque sorte, c'est une théorie chaude des croyances plutôt qu'une théorie froide des croyances. Un exemple qui suggère que ça peut être vrai, c'est que les gens qui sont plus éduqués ou sophistiqués ou meilleurs en maths ou qui ont une cognition plus sophistiquée que les autres ne sont pas forcément moins aptes à commettre ce genre d'erreur quand il s'agit de choses avec une charge émotionnelle comme aux États-Unis le réchauffement climatique ou le contrôle des armes à feu. Et cette idée est cohérente avec, en quelque sorte, en psychologie aussi, il y a une espèce de balancier. Après la révolution cognitive, on met maintenant en avance, davantage en avant, le rôle des émotions et leur interaction avec la cognition. On parle parfois de révolution affective. Ok, donc ce que je vais faire maintenant, c'est vous présenter très simplement un modèle, ou le genre de modèle sur lequel on travaille avec Jean Tirole. Il y aura quelques équations pour ceux qui aiment ça, pour ceux qui n'aiment pas, vous pouvez fermer les yeux. Mais avant d'introduire les équations, je vais remplacer les équations par des citations. Okay. Parce que comme toujours, ces idées ne sont pas neuves à un niveau général, donc on trouve des antécédents dans tous les textes classiques. Donc on va commencer par la source de distorsion des croyances étant un besoin de motivation, de se motiver, et ensuite un besoin de se rassurer. D'accord ? Voilà une citation de William James, un des pères fondateurs de la psychologie moderne, qui dit, je vais le lire en anglais, « Believe what is in the line of your needs, for only by such belief is the need fulfilled. Have faith that you can make it, and your feet are nerved to its accomplishment. » Une très belle citation. Il faut croire pour arriver à réaliser les choses. Donc comment est-ce qu'on va réfléchir ou décortiquer et modéliser ça? On va dire, voilà, un individu réalise que peut-être à un moment ou à un donné, il va être en proie à une tentation de ne pas travailler très fort, de ne pas investir assez, de consommer trop, d'abandonner. Est-ce que ça vaut la peine ou pas de persévérer? Ben, ça dépend de est-ce que je suis intelligent, est-ce que c'est un bon projet, est-ce que le marché va monter ou baisser, etc. Donc, maintenir une vue positive de ce rendement à long terme, que les choses vont bien marcher, que j'ai le talent qu'il faut, que l'investissement va payer, etc., c'est une façon de faire bouger mes pieds, de m'inciter moi-même à l'effort dont j'ai peur de ne pas le faire. D'accord ? Donc, il va y avoir un bénéfice fonctionnel à traiter différemment les bonnes nouvelles qui m'encouragent à l'effort et les mauvaises nouvelles qui me découragent. Qu'est-ce que ça donne avec un petit modèle? Donc là, en fait, ça ne change rien. J'ai simplement remplacé la citation par un petit diagramme qui montre comment on peut représenter ça de façon très simple. Donc, il y a trois périodes. Évidemment, on peut répéter ça. Un individu qui est désigné par I, monsieur ou madame I, va faire un effort à la date 1, étudier, investir, ne pas consommer trop, etc. Cet effort est coûteux, il a un coût C. D'accord ? Et puis, à la période 2, cet effort va amener des bénéfices qui vont dépendre de l'effort, peut-être de s'il a été coûteux, ils vont dépendre du rendement de l'effort. Est-ce que j'ai le talent ? Est-ce que le marché a récompensé mes investissements ? Ça, c'est la variable θ. Et il peut dépendre aussi d'autres choses. La tentation est représentée par le fait suivant. Normalement, je devrais comparer les coûts C et les bénéfices θ, mais au moment où il faut vraiment étudier le soir, etc., ou me priver pour épargner plus, ce coût me semble trop grand. J'en ai une perception exagérée. Au lieu de percevoir C, je perçois C sur bêta, où bêta est plus petit que 1, c'est-à-dire, mettons, je perçois le double du coût réel, donc j'ai moins tendance à faire ce qu'il faut du point de vue du long terme. Donc, à court terme, la tentation, c'est que les coûts me semblent trop grands, le coût de l'effort me semble trop grand par rapport à son rendement, alors qu'en fait, du point de vue de long terme, je devrais travailler ou je devrais épargner. D'accord ? La façon dont je peux m'encourager à travailler ou à épargner, à avoir un effort plus élevé, c'est de penser que le rendement de cet effort, mon talent, etc., le projet de mon entreprise, sont bons. Et là, on se tourne vers le côté de l'offre, en quelque sorte, de croyance. J'ai au début des signaux que je reçois de l'environnement sur le rendement de l'effort ou le rendement de l'épargne, θ. Et je peux les traiter de façon objective, c'est-à-dire, bon, s'il y a des bonnes nouvelles, ben, je vais les traiter comme des bonnes nouvelles, il n'y a pas de raison de faire autrement. S'il y a des mauvaises nouvelles qui risquent de me décourager, je peux être soit réaliste et reconnaître ça, soit optimiste et dire que ben, non, il n'y a pas vraiment une mauvaise nouvelle, ou elle n'était pas si mauvaise que ça, ou je me souviens que des bonnes nouvelles, etc. Donc, ça représente un petit peu aussi bien les préférences et l'aspect cognitif. Les préférences donnant lieu à cette demande de croyance optimiste et ici un mécanisme qui peut nous les donner. Ça, c'est le côté croyance et motivation. L'autre source dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est l'estime de soi ou l'anticipation. Donc là, c'est Nietzsche qui nous dit, là, c'est l'estime de soi. Ma mémoire me dit que j'ai fait ceci, sans doute quelque chose de pas très bien, mais mon ego me dit que je ne peux pas l'avoir fait, car je suis quelqu'un de bien. Donc, qui est-ce qui va céder ? C'est la mémoire. Et donc, du coup, je vais déconnecter de la réalité. Le rôle de la mémoire va être très important dans le modèle, et en fait, il est présent aussi dans cette autre citation de Marcel Proust, qui a eu des mauvaises nouvelles, lui, sur son capital social, sur une relation amoureuse, et qui essaye de les manager, et qui dit que pour briser les assauts renouvelés de ma mémoire, de cette mauvaise nouvelle, mon imagination travaillait utilement en sens inverse, c'est-à-dire je trouve d'autres raisons, des raisons pour lesquelles cette nouvelle n'est pas si mauvaise, c'est pas définitif, j'ai du mal voir, etc. Donc, comment est-ce qu'on coupe ça en petits morceaux ? On a un individu, cet individu ressent des émotions d'anxiété ou d'espoir ou de peur au sujet de ce qui va lui arriver, de ce qui va arriver à ses relations. Il consomme des croyances. Ça peut aussi avoir des symptômes physiques. Hein. On peut avoir des ulcères, on peut ne pas dormir la nuit, se disputer avec son partenaire, etc. Ce qui va se passer dans le futur, bon, ça dépend encore une fois de ce que je fais, de si j'ai le talent ou si j'ai la chance. Ça peut aussi dépendre de mes dotations initiales. Est-ce que je suis quelqu'un qui a des relations sociales ou qui n'en a pas, quelqu'un qui a un long CV ou qui n'a pas un long CV, etc. Donc j'ai du capital en jeu. Et maintenant, l'idée que ce capital va être source de choses ou de sentiments ou de... Oui, de choses plaisantes plutôt que de choses déplaisantes, à une valeur hédonique ou une valeur affective. Et donc, encore une fois, peut m'amener à distordre mes décisions. D'accord ? Donc, on remplace ces citations par un petit graphique qui est presque le même qu'avant. Donc, encore une fois, je prends un effort qui a un coût. À long terme, il y a des conséquences qui dépendent du rendement de l'effort, qui peuvent dépendre de mon capital initial, de mes gènes, de mes amis, de ma richesse. Il y a de l'incertitude sur ce rendement, il y a des signaux sur cette incertitude. Et maintenant, la composante affective, c'est qu'il n'y a plus de problème de self-control, c'est que simplement pendant cette période-là, mettons chaque nuit, je vais réfléchir à ce qui va m'arriver, et est-ce que je vais être heureux ou malheureux ici, pauvre ou riche, et je vais ressentir des émotions en proportion à ce paramètre S et à mon espérance, mes anticipations de l'utilité future. D'accord ? Donc ce paramètre S, c'est parfois décrit comme savoring, donc je savoure mes croyances ou ma susceptibilité à ces croyances. Et donc encore une fois, à partir du moment où on a ce bloc-là, eh bien, on peut avoir des raisons de distordre les processus cognitifs ici. D'accord ? Donc, voilà les deux modèles ensemble, ou enfin les deux variantes du modèle plus exactement, celle où la demande de distorsion de croyance est de nature instrumentale, celle où elle est de nature affective. Dans les deux cas, on voit qu'on a un modèle assez simple qui intègre les variables économiques classiques. Il y a un effort ou un investissement, il est coûteux, il a un rendement incertain. Des variables psychologiques... Je peux avoir une volonté imparfaite, je peux être sujet à ces émotions anticipatives ou à l'estime de soi. Je forme mes anticipations, je peux distordre la façon dont j'interprète les signaux, etc. Et aussi des variables sociales qui, pour l'instant, sont un petit peu en retrait, comme est-ce que j'ai des amis, est-ce que j'ai de la richesse, est-ce que j'ai de l'éducation, etc. Autre chose à remarquer, c'est que toutes ces variables sont potentiellement mesurables ou on peut les varier au cours d'une expérience. Alors, c'est peut-être pas évident a priori, mais on va voir comment on peut le faire. Bien, alors qu'est-ce qui ressort d'un modèle comme ça ? Expliciter certaines des prédictions, certaines relativement évidentes et d'autres moins de ce modèle. Et après, on va les confronter à toute une série d'expériences ou de données empiriques, etc. D'accord ? Alors, oui, juste un petit mot là sur le côté, parce que j'ai beaucoup insisté sur le côté demande, sur le côté pourquoi. Maintenant, un peu quelques mots sur le côté comment. On va distordre ces croyances. Donc, y a deux façons. Soit j'ai reçu un signal H ou L, bon ou mauvais, et j'ai une certaine flexibilité sur la façon dont je vais le mémoriser, pour dire vite, vu ce qu'on a vu avant sur la mémoire. Mais ce n'est pas forcément la mémoire. Ça peut être l'attention, ça peut être l'interprétation, ça peut être d'autres processus. Et il y a deux extrêmes. Soit je suis un réaliste. Si c'était H, je m'en souviens comme H. Si c'était L, je m'en souviens comme L. Ou je suis dans le déni. Si c'était L, eh bien, je prétends que c'était H ou quelque chose entre les deux. D'accord ? Bien sûr, ça a des avantages éventuels qu'on a vus, mais d'un autre côté, ça peut être coûteux directement, et surtout, ça peut m'entraîner à faire des fautes ou des erreurs que je regretterai par ailleurs. Et entre les deux, évidemment, il peut y avoir une certaine probabilité que je sois réaliste ou que je sois dans le déni. Donc ça, c'est une méthode de ex post sur laquelle je vais me focaliser. Mais il y a aussi l'autre qu'on a vu avec les tests, etc. C'est qu'avant même d'avoir l'information, d'avoir la bonne ou la mauvaise nouvelle, je dis « je ne veux pas savoir ». D'accord ? Je ne veux pas savoir, voire même je suis prêt à payer ou à faire des mauvais choix pour ne pas savoir. Ça, c'est ce qu'on appelle l'aveuglement volontaire. Et on a vu des exemples. Bien. Une question auxiliaire, c'est supposons qu'il y ait une personne qui ait ce genre de raison de distordre ses croyances ou sa cognition, etc. Est-ce qu'elle en est consciente ou pas ? Est-ce qu'elle le réalise ou pas ? D'accord ? C'est ce qu'on appelle la métacognition. Comment je comprends ma propre cognition ? Donc, voilà un petit dessin qui pose la question, où une des deux personnes, on ne sait pas trop laquelle, dit « mais si je suis en déni, si je dis que je suis en déni, est-ce que je suis vraiment en déni ? Ou est-ce que je peux être en déni en disant que je le suis ? D'accord ? Évidemment, c'est une question classique sur laquelle les philosophes se sont interrogés. Comment est-ce que, si l'autodéception, c'est croire en même temps P, une proposition, et son contraire, comment est-ce possible ? Alors, on peut faire appel à l'inconscient, par exemple, ou on peut prendre en compte le fait que dans la connaissance est un processus où les croyances sont un processus dynamique où on en reçoit de l'information, on y fait attention, on n'y fait pas attention, on la code en mémoire et ensuite on va la chercher dans la mémoire. D'accord ? Et c'est ce que j'ai mis en avant tout à l'heure. Et quand on fait ça, il n'y a plus vraiment de paradoxe parce que celui qui sait, c'est moi aujourd'hui, celui qui ne sait pas ou qui croit le contraire, c'est moi demain, et il n'y a pas de moment où je crois les deux choses en même temps. Et de même, ça clarifie le fait qu'il y a une différence entre savoir qu'on oublie et savoir ce qu'on a oublié. Là encore, une citation utile, c'est celle de... Si on sait qu'on a tendance à oublier, comme on l'a dit tout à l'heure, ça peut être mauvais, ça peut être bon. Si ça peut être mauvais, si ça peut être bon, on peut essayer de favoriser ce processus. Si on sait que c'est mauvais, on peut essayer de prendre des mesures pour l'éviter. Un exemple de ce dernier cas, c'est celui de Charles Darwin, qui dit qu'il a suivi pendant de longues années une règle d'or qui était que chaque fois qu'il y avait un fait scientifique ou une nouvelle observation ou même une pensée qui était opposée à ses résultats, tout de suite, il l'écrivait sans faute. Pourquoi ? Parce que s'il avait réalisé que s'il ne faisait pas, il avait tendance à oublier tous les résultats, toutes les observations, toutes les pensées qui étaient contraires à ses thèses, bien plus que celles qui étaient favorables. D'accord ? Donc, il avait une mémoire sélective. Il avait conclu en bon savant, en bon scientifique, que pour son activité, ça n'était pas une bonne chose à long terme. Et donc, il prenait des mesures pour échapper à ça. D'accord. Alors, qu'est-ce qui sort de ce modèle ? Les gens peuvent être... supposons qu'on ait eu des mauvaises nouvelles, mauvaise performance, mauvaise nouvelle sur mon investissement, sur ma relation sociale ou personnelle, etc. Est-ce que je vais actualiser mes croyances en fonction de ça. Est-ce que je vais en gros m'en souvenir ou pas dans le futur et agir en conséquence? Donc, il peut y avoir les deux cas ou quelque chose entre les deux. Donc, on va appeler lambda i pour l'individu u, la probabilité avec laquelle on se souvient ou on incorpore dans ses croyances postérieures les mauvaises nouvelles. Donc, alors évidemment, ça va dépendre des paramètres du modèle. Ici, j'ai pris par exemple le cas où la raison de distordre ses croyances, c'est que ben, j'aime pas penser que le futur va être mauvais, ça me fait peur, ça, je dors pas la nuit, etc. Donc, je suis sujet à ces croyances, à ces émotions anticipatoires, ou ça pourrait être aussi l'estime de soi, d'accord, qui sont paramétrisées par ce paramètre S. Il y a des gens qui sont plus ou moins sujets, ou si on me fait penser à certaines conséquences, je vais y penser plus ou penser moins. Donc c'est ce que mesure ce paramètre S. Donc intuitivement, si je ne suis pas très sujet à ce genre de on va dire d'affect psychologique, ben je vais me comporter comme un agent traditionnel rationnel, c'est-à-dire que les mauvaises nouvelles, eh ben je m'en souviens toujours et du coup ça va se refléter dans mes décisions et je vais me comporter en bon bayésien. Je vais avoir un degré de réalisme qui est égal à 100%. À l'inverse, si je suis très anxieux, très sujet à ce genre de choses-là, eh bien, les mauvaises nouvelles, je vais les oublier systématiquement ou pas y faire attention et je vais avoir un taux de rétention ou un taux de réalisme qui est égal à 0%. Puis entre les deux, ben, ça décroît graduellement. D'accord ? Donc, ce petit graphique reflète la façon dont les gens arbitrent, encore une fois consciemment ou inconsciemment, entre les coûts et les bénéfices du réalisme versus garder des croyances plaisantes ou pas trop déplaisantes. On peut faire la même chose ici quand c'est l'idée de se motiver soi-même qui m'induit à distordre mes croyances. Et à l'inverse, j'aurais pu mettre là sur cet axe-là, plus le coût des erreurs potentielles C est élevé, plus le coût, mettons, d'investir quand je ne devrais pas investir, de faire quelque chose que je ne devrais pas faire et qui peut être dangereux, etc., est élevé, moins je vais être dans le déni et plus je vais être réaliste. Et ça, c'est important parce que ça, c'est quelque chose qu'on peut facilement manipuler dans une expérience, les coûts matériels. Bien, alors maintenant, on va faire une liste de résultats ou d'idées qui sortent de ça, et puis on va passer à l'évidence empirique. Donc, premièrement, et peut-être de façon pas très surprenante, les individus qui répondent à ce genre de type de modèle ou à ce genre de motivation et de processus psychologique, ils vont actualiser leurs croyances ou réviser leurs croyances quand ils sont confrontés avec de l'information de façon asymétrique, c'est-à-dire qu'ils vont réagir plus ou faire plus attention aux bonnes nouvelles qu'aux mauvaises nouvelles. Et ça va souvent passer par la mémoire. Donc, on va chercher de l'évidence sur ce sujet. Ou bien, ça c'est l'autre stratégie, ils vont vouloir ne pas savoir ou ne pas vouloir savoir. On a déjà vu de l'évidence là-dessus, on en verra encore. Quand est-ce qu'on devrait s'attendre à voir ce genre de comportement, on va dire, non rationnel au sens standard? Eh bien, ça dépend évidemment des paramètres du modèle. Quand il s'agit d'une activité pour laquelle on a peur de la tentation, ou on a peur de ne pas avoir suffisamment de volonté, c'est-à-dire le paramètre bêta, s'il s'agit de quelque chose, une forme de capital social, financier ou quoi, avec lequel je vais vivre pendant longtemps, qui est très durable, là, c'est très important de penser que ça va être source de bonnes choses et pas de mauvaises choses. À l'inverse, si c'est quelque chose de très temporaire, ben, peu importe, en quelque sorte. Si quelqu'un attire mon attention sur le fait que c'est quelque chose qui est très important pour moi, par exemple mon groupe ethnique, si quelqu'un attire mon attention sur le fait que j'appartiens à tel groupe ethnique ou que je suis une femme ou un homme et que je vais que c'est pas prêt de changer, là encore une fois, ce que je pense que ce type de capital va m'apporter à long terme devient beaucoup plus présent à mon esprit et donc beaucoup plus important. Et donc, je suis éventuellement plus apte à vouloir penser que c'est une bonne chose. Le prix à payer des croyances erronées, c'est qu'à terme, on risque de faire des erreurs, il va falloir payer. Plus ce jour-là est éloigné, plus c'est facile de faire de l'autodéception. Les choses qui arrivent après la mort, etc. Donc, par exemple. Et de même que je l'ai dit tout à l'heure, faites pas forcément attention aux équations. Plus j'ai de stock d'un certain actif, ça peut être du capital humain, du capital social, de la richesse, etc. Plus j'en ai, plus c'est important que ça soit source de rendement élevé, et plus c'est déprimant que ça soit source de rendement bas, voire négatif. C'est un peu l'idée, c'est même beaucoup l'idée du syndrome de Stockholm. J'ai quelque chose qui est hors de mon contrôle, ou dans une certaine partie. Ça va être potentiellement très bon pour moi, moyennement bon, moyennement mauvais, très, très mauvais pour moi. Eh bien, je suis un peu prisonnier de cet actif, et s'il est très important, je vais avoir tendance à penser que ce n'est pas si mauvais que ça après tout, voire même c'est vraiment bien. De ce que j'appelle les croyances dépendantes des enjeux, selon les enjeux qui peuvent être matériels ou sociaux ou psychologiques qu'on a, les croyances, le modèle prévoit que les croyances vont s'adapter. Je vais sauter ça, peut-être. Voilà. Alors, passons maintenant à l'évidence. Okay. Et ça donnera aussi un aperçu des méthodes par lesquelles on regarde ces questions-là et d'autres, d'ailleurs, en particulier des méthodes expérimentales. Donc, voilà un article qui était un des premiers là-dessus, qui dit bien son nom, l'effet bonne nouvelle, mauvaise nouvelle. C'est un article d'économistes expérimentaux qui s'appuie sur une longue tradition en psychologie, en particulier les travaux d'une psychologue qui s'appelait Ziva Kunda. Et puis après, il y a eu des travaux qui étaient joints entre des psychologues et des économistes, dont je parlerai peut-être après. Donc, comment se passe une expérience en laboratoire sur ce sujet-là ? Donc, on a un certain nombre de sujets qui arrivent. Typiquement, ce sont des étudiants, mais pas toujours. On leur fait passer un test de QI on leur fait passer un test de beauté, c'est-à-dire qu'on demande à chaque fille de donner un score à chaque garçon et à chaque garçon de donner un score à chaque fille, etc. Donc, chacun se retrouve avec un score que connaît seul l'expérimenteur de QI ou de beauté. Voilà des actifs à long terme. Des enjeux auxquels les gens prêtent attention, en quelque sorte. Ou alors, on leur donne un actif complètement transitoire et artificiel, c'est-à-dire, ils tirent au hasard une carte de 1 à 10. D'accord ? Donc, tout ça est de 1 à 10. On est soit dans le décile supérieur, ou le deuxième décile, ou le dernier décile en QI, ou en beauté, etc., ou en nombre de cartes, en nombre sur la carte. Bien. Ensuite, on demande au sujet de dire dans quel décile pensez-vous que vous êtes ? Ou plus exactement, mettez des poids de probabilité sur chaque décile où vous êtes. Alors, il y en a certains qui sont dans la condition QI, donc on leur demande des questions seulement sur le QI, d'autres seulement sur la beauté, d'autres seulement sur le numéro de la carte. Et ce qui est très important, et caractéristique en tout cas de l'économie, c'est que quand on demande aux gens leurs croyances, maintenant, on les paye si les croyances sont exactes, d'accord ? Ou on les pénalise si les croyances sont fausses. Donc on leur donne des incitations à ne pas dire n'importe quoi, mais à dire des choses exactes. D'accord ? Et comme on connaît leur QI, leur beauté, etc., on peut le faire, d'accord ? Et à la fin, on leur demande leurs croyances après. Ensuite, on leur donne l'information, ce qui est très important parce qu'on sait quelle information ils reçoivent. Donc, on va les comparer au hasard. Par exemple, une personne va être comparée au hasard avec une autre et on va leur dire, eh bien, dans cette comparaison, vous aviez le QI le plus élevé ou vous aviez le QI le moins élevé. D'accord ? Et on fait ça deux fois. Et après chaque fois, on leur dit, bon, maintenant, où pensez-vous être dans la distribution ? Encore une fois, avec des pénalités si on est trop loin de la vérité. Donc, on regarde comment les gens réagissent au feedback. C'est-à-dire de est-ce qu'ils ont eu des bonnes nouvelles, vous aviez le QI le plus élevé, ou aux mauvaises nouvelles, ben, l'autre était plus beau que vous. Et à la fin, on regarde cet autre mécanisme, c'est-à-dire est-ce qu'ils veulent l'information ou est-ce qu'ils ne veulent pas l'information. On dit, bon, ben, le QI, on l'a, le score de beauté, on l'a, est-ce que vous êtes prêt à payer pour l'avoir ou est-ce que vous êtes prêt à payer pour ne pas l'avoir, comme on avait fait au début pour les tests. D'accord ? Donc, c'est une expérience très ingénieuse parce que donc on a des enjeux qui sont importants éventuellement, l'intelligence et la beauté. On a un contrôle qui est cet enjeu purement transitoire et sans importance. On mesure les croyances des gens en leur donnant des incitations à dire effectivement ce qu'ils pensent. Et on leur donne de l'information dont on sait ce qu'elle est et on regarde comment ils répondent à cette information. Quels sont les résultats principaux ? Ben, dans la lignée du modèle, on voit que quand les gens ont une bonne nouvelle, vous étiez plus intelligent, vous étiez plus beau, ils ajustent leurs croyances, c'est-à-dire ils se remontent dans la distribution d'intelligence ou de beauté. Par contre, quand ils ont des mauvaises nouvelles, ça ne bouge pas beaucoup. C'est comme s'il n'y avait rien eu, on va dire. Et que ceci est vrai en particulier, enfin, ceci est vrai pour le QI, ceci est vrai encore plus pour la beauté, et ceci n'est pas du tout vrai pour le numéro. C'est-à-dire quand il s'agit d'informations sur le numéro de ma carte, vous aviez un numéro plus élevé, moins élevé, les gens actualisent leurs croyances de façon rationnelle. Par contre, quand il y a des enjeux affectifs, ça n'est pas le cas, il y a cette asymétrie qui était prévue par le modèle. Deuxièmement, à la fin, ceux qui sont arrivés à des croyances relativement optimistes sur leur QI ou sur leur beauté sont prêts à acquérir l'information parce qu'ils pensent que ça va confirmer ou que ça ne peut pas être si mauvais que ça de toute façon. À l'inverse, ceux qui sont arrivés à des croyances pessimistes sont prêts à payer pour ne pas avoir l'information. Ça pourrait être encore pire que ce que j'ai appris jusque-là. D'accord ? Donc on voit vraiment ces mécanismes du modèle. On peut comparer la façon dont les gens révisent leurs croyances, qui est basée sur la désirabilité de l'information, à un biais de confirmation un peu mécanique, comme il y aurait dans le système 1, c'est-à-dire que, ben, quoi que j'ai pensé au début, j'interprète toujours les choses dans le sens qui renforce ce que je pensais au début. Et en particulier, si au début, je pensais que je n'étais pas très intelligent et qu'on me donne des nouvelles comme selon lesquelles je ne suis pas très intelligent, ben je vais les accepter, peut-être même les amplifier, au lieu d'y résister. Ce qu'on voit, c'est que les gens y résistent, bien entendu. Une autre expérience trouve des résultats similaires. Un petit peu de neurosciences. Les neuroscientifiques commencent à s'intéresser à ces choses-là, avec des méthodes différentes. Donc, là, ça part un peu de la même idée, c'est-à-dire qu'on va... mais il n'y a pas d'incitation sur les croyances. On va demander aux gens quel est votre risque d'avoir un cancer, un accident, des tas de mauvaises choses. Et puis, on leur donne de l'information sur quelle est la vraie probabilité, étant donné leur âge, homme, femme, etc., d'avoir cet événement. Leur groupe ethnique, leurs caractéristiques socio-économiques, etc. Donc on leur donne la probabilité objective pour le groupe auquel ils appartiennent, et puis on leur redemande. Et maintenant, que pensez-vous que soit la probabilité que vous ayez un cancer, un accident, un divorce, etc. Et on regarde s'il y a de nouveau cette asymétrie entre les réponses aux bonnes et aux mauvaises nouvelles. La réponse... Et oui, alors là, vous pourrez sans doute pas voir les détails de ces graphiques, mais vous pourrez voir que les barres noires sont partout plus élevées que les barres grises. Les barres noires, c'est la réponse à l'information désirée. Les barres grises, c'est la réponse à l'information indésirée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Par exemple, je pensais que j'avais une chance de 30% d'avoir une crise cardiaque avant l'âge de 70 ans. On me dit qu'en fait, c'est 45%. Ça, c'est une information non désirée. C'est une mauvaise nouvelle. On y répond peu. On me dit qu'en fait, elle était moins élevée que ce que je pensais. Donc, j'avais fait une erreur dans l'autre sens. Là, j'y réponds plus. D'accord ? Donc, on retrouve exactement ce même traitement asymétriques, des bonnes et des mauvaises nouvelles. Quel est l'apport de la neuroéconomie par rapport à l'expérience précédente c'est qu'on peut regarder ce qui se passe dans le cerveau. Donc, on a pour chaque question et pour chaque sujet l'erreur de prédiction, c'est-à-dire de combien ils avaient sous-estimé ou surestimé leur probabilité et donc de combien ils devraient ajuster une fois qu'on leur a donné la bonne probabilité. Dans le cerveau, on peut voir les régions qui répondent à ces erreurs de prédiction. assez surprise, en quelque sorte, c'est bonne ou mauvaise surprise. Et ce qu'on voit d'abord, c'est que ce sont différentes régions du cerveau qui répondent aux bonnes et aux mauvaises surprises. D'accord ? Il y a une espèce de spécialisation. Et deuxièmement, les gens qui sont typiquement optimistes, qui se sont déclarés sur la base d'un questionnaire préalable comme en général ayant une attitude positive envers la vie, etc., montrent beaucoup moins d'activation en réponse aux nouvelles, relativement aux bonnes nouvelles que les autres. D'accord ? Donc, on peut voir ça par exemple, on peut voir ça ici en particulier. Donc, le noir, c'est ce qu'on appelle les high optimists, les gens très optimistes sur la base de mesures précédentes. Ceux qui ne le sont pas tellement ou pas du tout, ce sont les gens gris. Et on regarde ici la réponse au. Ici, on voit, ce sont les régions qui répondent aux bonnes nouvelles. D'accord ? On voit une certaine différence entre les optimistes habituels et les pessimistes habituels, qui n'est pas forcément significative. Par contre, dans les réponses aux mauvaises nouvelles, on voit une grosse différence. On voit d'abord que les gens répondent moins aux mauvaises nouvelles qu'aux bonnes, surtout ceux qui sont typiquement des optimistes. Okay ? Donc, on voit cette asymétrie, et en plus, on voit qu'il y a différentes personnalités ou différents types de cerveaux, peut-être, dans lesquels elle est plus ou moins marquée. Autre expérience, portant maintenant sur ce mécanisme de la mémoire, d'accord ? Donc, ça commence un peu comme l'autre, on fait venir des sujets, on leur fait passer un test de QI, encore une fois, on leur donne des incitations, c'est-à-dire que plus ils réussissent, plus ils seront payés. D'accord ? 2 mois après, on les fait revenir. Chacun a répondu à 4 questions d'un test de QI, qui sont des petits graphiques où il faut compléter une figure manquante, qui sont parfois assez très difficiles. Et on leur demande de se souvenir, encore une fois, en leur donnant des incitations pour les bonnes réponses. Est-ce que cette question-là, vous l'avez déjà vue ou pas ? Ou vous ne vous souvenez pas ? Si vous l'avez déjà vue ou eue, plus exactement, est-ce que vous y avez répondu correctement ou incorrectement ? D'accord ? Donc, il y a plusieurs types d'erreurs qu'on peut faire, auxquelles ils donnent des noms, peu importe les noms. Par exemple, je peux avoir répondu correctement à une question et me souvenir que j'ai mal répondu. Ou je peux avoir répondu incorrectement à une question et me souvenir, ou dire que je me souviens, que j'y ai bien répondu. Ça, c'est ce qu'ils appellent « positive confabulation ». Ou bien une question que, par exemple, à laquelle j'ai mal répondu, je peux ne pas me souvenir de l'avoir vue. À l'inverse, une question que je n'ai pas vue, je peux dire « Ah mais oui, je m'en souviens, très bien », et j'y ai répondu correctement. D'accord ? Donc on va regarder la distribution de ces types d'erreurs de mémoire que les gens font. Les résultats ne sont pas très surprenants. Vous voyez, encore une fois, ces asymétries énormes entre positif et négatif. Donc ici, amnésie, ça veut dire, en fait, j'ai vu la question, simplement, je ne me souviens pas de l'avoir vue. Si c'est une question à laquelle j'ai répondu correctement, ben, en général, je me souviens de l'avoir vue. Le taux d'erreur est seulement de l'ordre de, mettons, 25-30%. Si c'est une question à laquelle j'ai mal répondu, ça double pratiquement. D'accord ? Si c'est une question à laquelle j'ai bien répondu, la probabilité que je me souvienne que je me suis trompé est quasiment nulle. Si c'est une question à laquelle j'ai donné une fausse réponse, ben, y a quand même une assez forte probabilité que je me souvienne que oui, j'ai bien répondu. D'accord ? Et même encore plus surprenant, on montre aux gens 2 questions qu'en fait ils n'ont pas vues. D'accord ? Et on dit vous l'avez vu, vous avez répondu bien, mal, etc. Eh bien, il est très rare que les gens disent « je me souviens d'avoir eu cette question et j'y ai mal répondu », alors qu'en fait, ils ne l'ont jamais vue. Mais il est assez fréquent qu'ils se souviennent d'avoir répondu correctement à une question qu'ils n'ont jamais vue. D'accord ? Et en plus, ce sont à peu près les mêmes gens, enfin statistiquement, qui commettent tout ce genre d'erreurs. Bien. Alors tout ça, c'est dans le laboratoire, ça permet de contrôler l'information, ça permet de mesurer les caractéristiques des gens, etc. Quid de ce qu'on appelle le monde réel ou le monde extérieur ? Alors, un papier très récent, encore un peu préliminaire, nous emmène justement dans ce qu'on appelle une expérience de terrain, okay, avec, on va dire, des vrais gens et des vrais enjeux. Donc, il s'agit de... Ils ont fait ça en accord avec une grande firme nationale qui a des magasins de nourriture et de boissons. Alors, c'est anonyme, donc on ne sait pas laquelle c'est. Je pense que c'est aux États-Unis, dans chaque État ou dans chaque région. Les sujets, là, ce ne sont plus des étudiants, ce sont les vrais managers. Chaque manager manage un magasin. Il est responsable de l'emploi, des ventes, etc., etc. Et chaque trimestre, on évalue sa performance et l'entreprise, c'est ce qu'elle faisait toujours, fait une espèce de tournoi. Et en fonction du rang dans le tournoi, c'est ce qui détermine les bonus des gens. D'accord ? Donc, impitoyable, d'autant plus que la différence entre, disons, être tout en bas de la distribution et être tout en haut, c'est énorme, c'est à peu près 150% du salaire de base. Et en général, en moyenne, à peu près 50% du revenu de ces gens, de ces managers, vient de ces bonus. D'accord ? Donc là, ce sont des paiements réels pour des gens réels, pour des activités réelles. Donc, il y a ce genre de tournoi chaque trimestre. À la fin du trimestre, chacun apprend exactement où il est dans la distribution, discute avec son superviseur de « est-ce que vous avez bien fait, est-ce que vous avez mal fait ?» Donc, ils ont encore une fois du feedback, mais c'est du feedback réel dans le monde réel. Les chercheurs observent comment les gens ont performé dans le passé. Donc, on peut savoir qui est bon, qui est mauvais en moyenne. Et puis, on leur demande, donc ça, c'est le côté expérimental, on leur demande, c'est fin 2000, je crois que c'est fin 2014, attendez que je me souvienne, non, fin 2014, fin 2015, au troisième trimestre 2015, on leur demande de prédire où ils seront dans les distributions au prochain semestre, au prochain trimestre, ou plus exactement, quel est le quintile, les 20% les plus, où ils ont le plus de chances d'être. Et encore une fois, on leur donne des incitations, comme s'il n'en avait pas assez. Et aussi, on leur demande de se souvenir de où ils étaient dans la distribution le trimestre d'avant. D'accord ? Et encore une fois, donc là, on leur demande quel était votre rang, 99 sur 100, 20 sur 100, etc., à plus ou moins, et plus ou moins 10. On mesure aussi leurs préférences, leurs capacités, etc., etc. Qu'est-ce qu'on trouve ? D'abord, on revient un petit peu au point de départ, on trouve beaucoup de overconfidence. D'accord ? Donc, que ça soit, quand on compare la façon dont ils prédisent leur performance au quatrième trimestre 2015 par rapport à leur vraie performance, on trouve qu'il y a à peu près 35% de gens qui sont à plus ou moins 10% de la vérité, 21% de gens qui se sous-estiment et le double qui se surestiment. D'accord. On peut aussi comparer la performance prédite à la performance qu'ils devraient prédire, étant donné tout le feedback qu'ils ont eu, ce que ferait un agent rationnel bayésien. Et là, on trouve à peu près la même chose. D'accord. On peut faire des tests statistiques qui montrent qu'il n'y a pratiquement aucune chance que ces gens soient bayésiens. Ils ont vraiment un biais d'optimisme. D'où vient ce biais d'optimisme ? Eh bien, il vient en partie du fait que les gens ont une mémoire sélective. Donc là, on regarde où ils étaient dans le classement. On va dire, là, ce sont les premiers, là, ce sont les derniers, là, ce sont les bons, là, ce sont les mauvais. Et là, on leur demande de se souvenir où ils étaient dans le classement il y a quelques mois. Là, c'est exact. Et là, ce qu'on voit, c'est que la plupart des gens ont une mémoire biaisée vers le haut. D'accord ? Évidemment, il y a une corrélation, mais il y a un biais vers le haut. Les gens qui ont une bonne performance se souviennent mieux de ceux qui ont une mauvaise performance. Et en fait, 68% d'entre eux se souviennent, ont une mémoire biaisée vers le haut. D'accord ? Donc là, on voit encore la prévalence du suroptimisme, la mémoire sélective, qui sans doute joue un rôle là-dedans. Ce qui est en plus étonnant, c'est que quand on leur demande de se souvenir, Il pourrait dire « Ah, ben, j'étais dans le top pour impressionner la personne qui les questionne. » Mais la personne qui les questionne sait exactement où ils étaient et eux savent que cette personne sait. D'accord ? Donc, il n'y a pas de risque qu'ils soient en train d'essayer de faire de l'esbrouf. Non, c'est vraiment, ils ne se souviennent pas. Bien, on va avancer un petit peu. D'accord. D'autres tests. Donc, on a vu cette idée aussi qui sortait du modèle que les biais, ou disons la façon dont les gens forment leurs croyances, va dépendre des incitations ou des enjeux qu'ils ont à croire que l'état de la nature va dans un sens ou dans un autre. Donc, un exemple, c'est cette étude qui, elle-même, encore une fois, fait suite à des études psychologiques, ou qui est en laboratoire. Donc, on fait venir à nouveau des sujets. On leur donne, on leur montre des graphes montrant le prix du blé pendant, je ne sais plus, 50 périodes. Et on leur dit, bon, ben voilà, vous allez devoir prédire ce qu'était le prix du blé à la période 100. Et si vous trouvez, plus vous êtes proche de la vérité, plus vous gagnerez d'argent. Et vous faites ça 12 fois pour apprendre, parce que ce n'est pas forcément une tâche familière. Les prix du blé sont entre 4 000 et 12 000 denars, je ne sais pas, à la tonne. D'accord ? Et la manipulation expérimentale, c'est qu'il y en a 50% qui, au hasard, vont avoir le rôle de fermier, et les autres vont avoir le rôle de boulanger. Alors, un fermier, eh bien, il a intérêt à ce que le prix soit élevé, c'est-à-dire, en plus de son bonus d'exactitude, on va le payer en fonction plus si le prix est élevé, et un boulanger, on va le payer moins si le prix est élevé. D'accord ? Donc, on leur a donné de façon exogène des enjeux. C'est bon pour les fermiers que le prix soit élevé, c'est bon pour les boulangers que le prix soit bas. Quelles sont les croyances qu'ils forment? Là, on voit les deux histogrammes, et la différence n'est pas énorme, mais elle est visible à l'œil nu. Ce qu'on voit, c'est que typiquement, les fermiers font des prédictions de prix supérieures aux boulangers. D'accord ? Donc, en fonction des enjeux, les gens déforment leurs croyances. Là, je vais le sauter, je pense. Oui. Alors, pour parler un peu de croyances dans un autre domaine, qui est le domaine moral, qui est très important. Est-ce que je suis une personne honnête? Est-ce que je peux faire confiance aux gens? Est-ce que les autres gens sont honnêtes, etc. Ou est-ce qu'ils sont malhonnêtes et du coup, ça justifie que je les traite mal, et ainsi de suite. Donc, encore une fois, il y a des antécédents faits par des psychologues et des économistes ensemble, mais là, c'est un article par des économistes, une expérience. Et le titre, c'est « Conveniently upset », c'est-à-dire, en quelque sorte, « ça m'arrange bien d'être en colère », en quelque sorte, ou « ça m'arrange bien de me sentir lésé ». Donc, quel est le jeu ici, si je puis dire? C'est ce qu'on appelle le jeu de Truss, c'est-à-dire dans la version de base, une personne a, mettons, 10 dollars ou 10 euros et choisit combien en garder, combien en confier à un trustee ou quelqu'un qui va investir pour elle. Si, mettons, j'ai confié X à la personne, c'est transformé en 3X, un peu comme le rendement de l'investissement. Ça, c'est l'expérimenteur qui donne 3X. Et la personne, après, l'autre personne, choisit de renvoyer à l'investisseur ce qu'elle veut. 0, 3x, plus que 3x, la moitié, etc. Donc c'est vraiment un jeu qu'on utilise souvent pour mesurer la confiance. Si je donne de mon argent à cette personne et que ça va fructifier parce que je leur ai donné, est-ce que je peux leur faire confiance pour m'en donner une juste part ou pas ? Donc ça, c'est le jeu de Truss standard. Ici, c'est un peu différent. C'est-à-dire qu'en plus, donc j'avais 10 euros, on va dire. Cette personne-là qui va prendre la décision a aussi 10 euros. Et moi, j'ai la capacité de leur confisquer une partie de leurs 10 euros, de la façon dont on va voir tout à l'heure. Donc, initialement, je choisis combien leur... Initialement, deux choses se passent en même temps. D'accord ? Moi, je décide, est-ce que je prends leur argent ? Moi, je suis l'investisseur, disons. Est-ce que je prends l'argent de... Je suis, l'investisseur. Est-ce que je prends l'argent du manager, on va dire, ou pas ? Est-ce que je confisque son argent ou pas. Et en même temps, le manager décide à quel prix vont être convertis, si vous voulez, les fonds qu'on leur a confiés. C'est-à-dire les fonds que je leur ai confiés, plus leurs fonds propres, ils vont les revendre à l'expérimentateur, soit pour 1,5 $ par dollar, soit pour 0,5, c'est-à-dire à perte. Et dans ce cas-là, ils ont un bribe, ils ont un pot de vin. D'accord ? Donc ça, on essaie de répliquer la situation réelle où j'investis chez quelqu'un. Cette personne est censée faire fructifier mon investissement et éventuellement m'en repatrier une partie. Ou au contraire, ils pourraient vendre à leurs copains à perte et puis empocher un dessous de table. D'accord ? Alors évidemment, si je sais qu'ils empochent un dessous de table et qu'ils sont malhonnêtes, j'ai des bonnes raisons de dire bon ben, je prends tout leur argent ou je prends le maximum possible de leur argent que je peux. Ça paraît très juste. Seulement ici, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Personne ne sait ce qu'a fait l'autre. D'accord ? Donc l'investisseur ne sait pas si l'autre a été honnête ou malhonnête, et celui qui choisit d'être honnête ou malhonnête ne sait pas si l'autre partage ou ne partage pas avec lui, partage ou confisque. Et il y a deux conditions, encore une fois aléatoires, c'est-à-dire que soit moi je suis l'allocateur ou l'investisseur, soit je peux confisquer 2 de ces 2 euros ou jetons, soit c'est peu, soit 8 sur 10. Et donc ce qu'on regarde, c'est est-ce que cette opportunité que j'ai de confisquer ou de prendre de l'argent à quelqu'un, premièrement, est-ce que je vais le faire ? Deuxièmement, est-ce que ça va s'accompagner de croyances sur le fait que cette personne a essayé de m'escroquer ? Ou sur le pourcentage de gens qui sont corrompus. D'accord ? Il n'y a aucune raison qu'il y ait un lien entre les deux, vu que je ne sais pas ce que cette personne a fait, et que c'est complètement exogène si je peux leur prendre de l'argent ou pas. Donc ça serait vraiment un cas de croyance, ce qu'on appelle self-serving, c'est-à-dire à mon avantage, et c'est effectivement ce qu'on va voir. C'est-à-dire quand j'ai l'opportunité de prendre beaucoup, je trouve des raisons pour lesquelles il est juste de penser beaucoup, c'est-à-dire que je me mets à penser que cette personne-là m'a escroqué ou est susceptible de m'avoir escroqué, que la plupart des gens dans cette position-là escroquent, et ainsi de suite. D'accord ? Donc, regardons par exemple ce graphique-là. Donc, ça, c'est « tokens taken by the allocator », donc c'est combien j'ai confisqué de leur argent. Alors, évidemment, si je ne peux en confisquer que 2, ben, je ne veux pas faire plus. Donc, il y a un pic ici à 2. Si je peux en confisquer 8, ben, il y a un pic à 8. Tout le monde ne fait pas ça, mais en général, les gens confisquent pas mal. D'accord ? Ce qui est plus intéressant, ce sont les croyances qui vont avec. Et là, on a les deux histogrammes. L'histogramme noir, c'est pour les gens qui peuvent confisquer, qui ont peu d'opportunités de confisquer ou de punir. Eh bien, leurs croyances sur l'honnêteté de l'autre sont relativement modérées. Il y a un peu de tout. Par contre, les gens qui ont l'opportunité de confisquer beaucoup d'argent, se mettent à penser très fortement que l'autre personne a été malhonnête ou que la fraction de gens qui sont malhonnêtes est élevée. Encore une fois, toutes ces croyances sont récompensées si elles sont exactes ou punies si elles sont inexactes. Mais on voit très bien comment on a donné à certains des enjeux faibles ou des enjeux élevés et comment leurs croyances sur l'honnêteté de l'autre personne s'en trouvent déformées et aussi leurs actions. Je vais finir en mentionnant juste une autre expérience des mêmes auteurs. Donc, pour revenir dans le monde réel, ils exploitent ce qu'on appelle une expérience naturelle, c'est-à-dire quelque chose qui s'est fait au hasard sans que ça ait été prévu, en quelque sorte. En Argentine, il y avait dans un endroit autour de Buenos Aires, depuis des années, des squatteurs qui occupaient illégalement des terrains. Et il y avait des procès sans fin dans un système kafkaïen qui ne donnait rien du tout. Et donc les squatteurs restaient là. Et à un moment donné, le gouvernement argentin a donné des droits de propriété à certains de ces squatteurs et pas à d'autres, selon un processus dont les auteurs arguent assez de façon convaincante que c'était à peu près aléatoire. C'est-à-dire que c'était vraiment imprévisible qui aurait un titre et qui ne l'aurait pas. Et Donc, on a donné des enjeux différents. Il y en a qui n'avaient pas de terre maintenant, ou pas de terre légale. Maintenant, il y en a qui ont de la terre légale, qui sont légalement propriétaires. Et ce qu'on voit, là, c'est sans incitation, mais simplement à surveiller, c'est que les gens à qui on a maintenant, qui sont maintenant légalement propriétaires, adoptent des attitudes politiques même, ou économiques, très différentes. Ils sont plus aptes à penser que l'argent fait le bonheur. Ils sont plus aptes à penser que chacun est responsable de son succès et que les autres, on peut faire confiance aux autres. Ce qu'on appelle en général des croyances pro-marché, des croyances qui vont avec une certaine confiance dans le marché, dans l'effort individuel, dans le fait que ça sert à quelque chose de gagner de l'argent, etc. Donc, pareil, un effet des enjeux qu'on a donné ici de façon aléatoire, encore une fois, des vrais enjeux, maintenant on n'est plus dans le laboratoire, qui fait que les croyances se déforment. Conclusion, donc les croyances et la façon dont elles répondent à l'information reflètent un mélange de rationalité standard bayésienne, les gens ne peuvent pas faire des erreurs trop énormes, avec évidemment des limitations cognitives, des biais, etc., dont Kahneman, etc., on parlait beaucoup, mais aussi des mécanismes psychologiques assez classiques, assez standards, aussi bien fonctionnels qu'affectifs. Ça passe par l'attention, l'interprétation et en particulier la mémoire. Tout ça peut être modélisé et mesuré, manipulé par des expériences ou mesuré par des expériences sur le terrain, des données sur le terrain. Ça veut dire que c'est l'heure de conclure. Et ce qu'on voit, c'est qu'ils ne sont pas totalement réactifs à la vérité, comme ils devraient l'être. D'un autre côté, ils ne sont pas rigidement fixés par des biais exogènes ni par des déterminants sociaux. Ils sont flexibles. Ils répondent aux trade-offs, aux arbitrages entre les coûts et les bénéfices d'avoir des croyances exactes versus des croyances, on va dire, désirables. Et puis en même temps, on a illustré que ce genre de conclusion, on y arrive par une combinaison de méthodes expérimentales, empiriques, neuro et modélisation mathématique. Voilà, je vais m'arrêter ici.